おかしいおかしい。
Alain Héroux de la présentation.
Bonsoir, vous le savez, Radio Capi a exactement 8 ans ce 25 février 2010. Le thème de votre émission de ce soir est le rôle de Radio Capi, Radio de la Paix, dans la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Au lieu de deux, comme annoncé, trois invités participent à cette émission. Deux sont avec moi dans ce studio, professeur Elikia Mboukolo, analyste politique et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Jean-Claude Ntumba Kamanga, un des anciens présentateurs de l'émission Dialogue entre Congolais. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir Alain.
Jean-Marie Guénaud, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de maintien de la paix, lui est en ligne. Bonsoir Jean-Marie Guénaud.
Bonsoir.
Vous êtes également très nombreux à réagir par rapport au 8e anniversaire de Radio. C'est le cas de Ali de Goma en Nord Kivu qui dit « Votre émission Dialogue entre Congolais nous a beaucoup marqué et continue de nous marquer, surtout pendant la période de guerre de l'Est où nous étions coupés du reste du pays. Grâce à vous, la population a été apaisée lors de la prise de la ville de Bukavu par le RCD. Je souhaite que Radio Capi et votre émission Dialogue entre Congolais aille de l'avant. » Blanchard Luana de Mbandaka à l'Équateur, l'émission Dialogue entre Congolais a vraiment joué un rôle largement important parce qu'elle a permis au peuple congolais, durant ses 8 ans d'existence, de bien comprendre les différents enjeux politiques de la RDC. Bon anniversaire à tous qui avaient été très nombreux à nous accompagner durant ces 8 ans et bienvenue dans ce spécial Dialogue entre Congolais.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Cette émission consacrée au 8e anniversaire de Radio Capi va procéder étape par étape en passant en revue les moments forts du paysage politique congolais depuis le dialogue intercongolais en 2002 qui correspond au lancement de Radio Capi, la transition avec le 1 plus 4, les élections, la mise en place des institutions issues des élections et poursuivie par les perspectives d'avenir. Notez que Radio Capi, à travers l'émission Dialogue entre Congolais, a également évolué suivant les moments forts que nous venons de citer. C'est aussi ici l'occasion de rendre hommage aux différents présentateurs de cette émission et une pensée pieuse à Jérôme Gongo qui nous a quittés. Professeur Elikia Mboukolo, un mot par rapport aux 8 ans de Radio Capi.
Ah ben, 8 années, ça paraît peu à première vue, mais c'est beaucoup parce que les gens ont l'impression aujourd'hui qu'ils vivent avec Radio Capi depuis toujours. Parce que justement, ces 8 années ont été très lourdes, très chargées, avec énormément d'incertitudes, beaucoup de conflits, beaucoup de morts, hélas. Et les gens savent que, en dehors des grandes radios de l'extérieur, il y avait une radio nationale qui est toujours là, qui leur a donné à la fois une information, je dirais, objective et aussi complète que possible, une information qui n'est pas vue seulement à partir de Kinshasa, comme c'est le souvent le cas, mais avec des reportages sur le terrain et des faits vécus, en plus de l'information, des analyses venant de points de vue différents, et également des débats que Radio Capi a toujours su maintenir à un niveau de cordialité suffisant, même si on se souvient qu'il y a eu quelques empoignades un peu sévères, mais c'est toujours resté à un niveau acceptable. Donc c'est très bien à la fois d'information et aussi peut-être d'une école de la citoyenneté et d'une école pour les acteurs politiques qui apprennent enfin à se parler les uns les autres.
Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Oui, d'abord je commence par vous remercier de m'avoir associé à cette émission. Évidemment, ce n'est pas toujours facile de se retrouver dans l'autre camp. Mais je note d'abord ce qu'un auditeur a dit ici, que Radio Capi a permis aux auditeurs de bien comprendre les enjeux. Et je pense que la radio est là justement pour les auditeurs. Et je peux dire que en tant que, je parle d'abord à titre tout à fait personnel, en tant qu'ancien présentateur justement, en tant qu'ancien journaliste de Radio Capi tout court, je pense que c'est une fierté, hein, c'est une fierté. On se sent quand même récompensé quelque part quand les auditeurs reconnaissent le travail abattu par cette radio, tout le bien que cette radio fait pour eux. Je sais que le paysage médiatique congolais, il est ce qu'il est, on le connaît. et Okapi a comblé un vide, ça il faut le reconnaître. C'est pas facile pour les acteurs politiques, notamment, de s'exprimer sur certaines chaînes, et on sait que ce travail a été abattu et continue à être abattu par Radio Okapi. Donc je dis coup de chapeau pour le travail abattu, et bien sûr il y a encore des défis qui attendent cette radio.
Jean-Marie Guémot, également un mot par rapport aux 8 ans de Radio Okapi.
Il y a 8 ans, le Congo était un pays divisé, et Radio Okapi, ça a été au fond un des premiers éléments de de l'unité retrouvée du pays. Avant qu'il y ait l'unité physique, avant qu'on puisse aller de Bukavu à Kinshasa, de Kinshasa à Kisangani, à Beni, sans problème, au moins on pouvait se parler grâce à Radio Okapi. Je crois que Radio Okapi a joué et joue un rôle essentiel pour permettre à votre grand pays, tellement divers mais en même temps très unis, de pouvoir se parler sur toute l'étendue du territoire. Et pour moi, ça, c'est absolument essentiel. Et je dirais que Radio Okapi, dans la reconstruction du pays, ça vaut des bataillons et des bataillons.
Alors, je vous propose de commencer par le dialogue intercongolais à Sun City. Il s'est ouvert le 25 février 2002. Pour vous replonger dans l'ambiance, je vous invite à écouter cet extrait de la première émission annonçant l'émission Dialogue entre Congolais le 25 février 2002.
Le dialogue intercongolais.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette émission spéciale consacrée au dialogue intercongolais. Au micro, Paul Madidi. Tout au long de ces programmes, nous donnerons la parole à tous les acteurs de ce dialogue dans toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons rapidement rappeler quelques faits historiques. Comment les Congolais sont-ils arrivés à la situation actuelle? Quels sont les événements qui ont conduit à ce dialogue? Martin Mazembe.
Depuis bientôt 6 ans, la République démocratique du Congo est ravagée par la guerre. En 1996, une première guerre est déclenchée à l'est du pays par l'AFDL, soutenue par les troupes rwandaises. L'AFDL veut atteindre Kinshasa, chasser Mobutu et prendre le pouvoir. Pour le gouvernement rwandais, il faut neutraliser des combattants ex-FAR et des miliciens interahamwe très actifs dans les camps des réfugiés à l'est du Congo et ainsi assurer la sécurité du Rwanda. La guerre se termine en mai 1997 avec effectivement la chute de Mobutu et son remplacement par Laurent Désiré Kabila, nouveau président de la République.
Okapi, dialogue entre Congolais.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Dialogue entre Congolais de ce mardi 25 février 2003, spécialement consacré à l'an 1 du processus de paix. Et comme cet anniversaire coïncide avec la tenue des travaux de la commission technique préparatoire à la dernière phase des travaux du dialogue intercongolais, nous nous focalisons autour de cela. Pour cela, nous aurons en ligne et en permanence Jérôme Ngongo à Pretoria en Afrique du Sud. À ses côtés, le docteur Kabamba de l'opposition politique, précisément du parti politique dénommé Front Patriotique. Sur place est une chance dans ce studio de Radio Okapi, le professeur Buyoya, analyste politique. Jérôme Ngongo, vous êtes en Afrique du Sud, à Pretoria précisément. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le miracle entre guillemets peut se produire? Cette question est posée bien sûr à votre invité.
Je veux dire que je ne suis pas qu'avec Dr. Kabamba, il y a beaucoup d'autres délégués qui sont avec moi ici, qui sont de l'opposition politique, la société civile. Et donc, à un moment, vous entendrez un peu tout le monde.
Voilà, c'était juste un extrait pour vous replonger dans l'ambiance de 2002-2003. Le deuxième présentateur que vous avez suivi, c'est notre confrère Emmanuel Imbanda. Professeur Edi Kambokolo, un mot par rapport au contexte, un rappel par rapport au contexte historique, politique qui a donné lieu au dialogue intercongolais.
Oui, je trouve que le journaliste explique très bien ce qui se passait, c'est-à-dire on était en transition depuis, disons, 1990. On peut remonter un peu plus haut dans le passé et cette transition était bloquée. Il rappelle très bien comment, dans le blocage politique au niveau de Kinshasa, il y a eu une guerre déclenchée depuis l'Est. C'est la première guerre, disons, depuis Chabat II, 1978. Et donc c'est quelque chose de nouveau parce que cette guerre va aller jusqu'à son terme, la chute du maréchal Mobutu, et qui en fait ne met pas un terme à ce processus de transition, et donc on entre dans l'un des conflits les plus terribles de notre histoire africaine, et l'un des conflits les plus terribles du XXe siècle. Et donc, lorsque on arrive enfin, après beaucoup de rebondissements, et grâce à la ténacité de nos partenaires internationaux, à ce fameux dialogue, et au 25 février 2002, on est à un peu plus d'un mois de la signature par les délégués du fameux accord global et inclusif. Donc, on est pratiquement à la porte du miracle. Hein, ce qui avait semblé impossible, c'est qu'enfin, on arrive à se mettre d'accord, et je trouve que c'est important que Radio Okapi ait repris ce terme de dialogue, parce que la vie politique au Congo a été gérée à coup d'excommunication, de disqualification, d'assassinat, quelquefois. Et le fait de dialoguer, l'idée de maintenir ce terme du dialogue jusqu'aujourd'hui est un point tout à fait important au Congo.
Et il faut souligner, professeur, que c'était dans un contexte de méfiance. Il fallait mettre tous les protagonistes autour d'une table et ce n'était pas facile. Et
ce n'était pas facile parce qu'il y avait la méfiance, il y avait des alliances qui avaient été rompues entre les uns et les autres. C'est des gens qui se connaissaient depuis longtemps, qui étaient passés d'un parti à l'autre. Plus aussi le fait que la guerre qu'on avait vécu avait aussi des calculs extérieurs au Congo de la part de nos voisins, tous nos voisins, en particulier ceux de l'Est. Donc ça rendait l'idée même du dialogue difficile et la conclusion du dialogue par un accord encore plus problématique. Mais on y est arrivé et je crois que c'est important que Radio Okapi, les auditeurs l'ont entendu, ait été à la fois à Kinshasa et à Pretoria. Donc le direct, hein, ça c'est vraiment important, le direct et la parole des acteurs, ça n'est pas remplaçable. Lorsqu'on lit ça dans un journal ou qu'on entend que tel a dit ceci, donc entendre Kabamba parler, c'est irremplaçable. Et Radio Okapi a toujours su, et ça je pense que c'est important, être sur le terrain là où les choses se passent.
Jean-Marie Guéhenot, vous avez été secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix. Comment vous avez vécu particulièrement ce moment du dialogue intercongolais?
C'est un tournant, parce que le dialogue intercongolais, au départ, il y avait la guerre, il y avait le pouvoir des fusils. Et dans le dialogue intercongolais, on ne pouvait pas ignorer les fusils, mais il fallait progressivement aller du pouvoir des fusils au pouvoir de la politique, à la négociation et au dialogue. Et bien sûr, il y avait les compromis. Il y a ceux qui trouvaient qu'il y avait trop de place faite aux fusils par rapport à ceux qui n'avaient que leur voix, mais pas de fusils. Mais je pense que quand on regarde les choses avec le recul du temps aujourd'hui, on voit que ça a donné de bons résultats, parce que si on avait ignoré les fusils, eh bien les fusils ne se seraient pas laissés ignorer. Mais en même temps, on a réussi progressivement, les Congolais, dans leur dialogue, ont réussi progressivement à créer un espace politique qui fait que peu à peu, l'influence des fusils, l'influence de la force, de la violence, a diminué au profit d'un vrai débat politique qui s'est fait par étapes. Et le dialogue intercongolais, ça a été la fondation de tout cela.
Alors, pour revenir à Radio Okapi, comment est née l'idée de doter la RDC d'une radio de la trempe de Radio Okapi?
Dans la plupart de nos missions de maintien de la paix, on essaye d'avoir une radio, parce qu'on sait que la paix, ça se gagne dans les têtes. Et donc, on voit les soldats, on voit les troupes. Mais en réalité, la vraie bataille, elle est dans les têtes. Et donc, il est très important que l'information, que le dialogue, que la discussion s'instaure. L'originalité de Radio Okapi, c'était une radio qui a été créée avec une certaine distance dès le départ avec la mission de maintien de la paix, pour qu'elle puisse relayer les efforts de la MONUC, mais qu'en même temps, elle ait la distance, l'indépendance nécessaire pour avoir toute la crédibilité qui lui donnerait le maximum d'impact. Et je trouve que Radio Okapi a gagné ses galons, parce que justement, comme on vient de le remarquer, les journalistes n'ont pas hésité à avoir le langage de la vérité, à avoir le langage du direct, à faire intervenir les personnes, même si quelquefois c'était des vérités qui dérangeaient. Et c'est ça qui fait la force d'une radio. Donc pour nous, quant aux Nations Unies, Moi, j'étais convaincu qu'il fallait, établir cet espace de dialogue, parce que la paix au Congo, elle s'établirait pas par les armes, elle s'établirait par la politique.
Jean-Claude Ntumba Kamanga, vous étiez déjà dans la profession, hein, journaliste à l'époque. Parlez-nous un peu de la couverture médiatique de cet événement.
Oui, bien sûr, à cette époque, j'étais journaliste, mais j'étais pas encore à Radio Okapi, j'étais reporter pour le compte de ITV RFO, et c'est à ce titre-là, sous cette casquette-là, que je me suis retrouvé en Afrique du Sud. J'ai eu à côtoyer notamment Paul Madidi, qui était là comme reporter pour le compte de Radio Okapi, Micheline, voilà, je pense que j'en ai vu aussi à Pretoria, notamment lors de la signature de l'accord global de Pretoria, un accord qui s'est signé pratiquement aux petites heures, parce qu'on est resté toute la nuit, et c'est pratiquement au petit matin que l'accord avait été signé, et que bon, c'était un moment, je dirais, très très délicat. Je salue le travail battu par Radio Okapi, parce qu'il faut reconnaître qu'à ce moment-là, les journalistes de Radio Okapi bénéficiaient quand même des moyens que tous les autres journalistes n'avaient pas. Hein, les frais d'émission, tous les moyens techniques dont on parle. Le professeur Elika a parlé du direct. Je crois que c'était l'une des radios quand même qui pouvait se permettre justement ce direct. Donc Radio Okapi, par ses moyens importants, a permis justement de lancer ce débat et qui est maintenu, parce que non seulement Okapi a aidé justement dans cette l'installation des premières institutions, notamment l'institution de la transition jusqu'aux élections. J'espère qu'on va en parler, mais Okapi a eu aussi à accompagner tout ce processus, je peux dire, jusqu'en ce moment.
Professeur Elika Mbokolo, prenons la deuxième étape, c'est la transition, hein, avec le 1 plus 4, le 30 juin 2003, on se rappelle, un gouvernement de transition est nommé d'après, selon l'accord global et inclusif, mais ce gouvernement que beaucoup à l'époque ont qualifié de monstre, de fourre-tout, a quand même fonctionné malgré ça.
Oui, ce fameux gouvernement 1 plus 4 qui a donné lieu, on sait que le peuple congolais aime les plaisanteries, le détournement des formules politiques à des plaisanteries interminables, a permis quand même déjà de montrer que des gens très différents, venus d'horizons extrêmement dispersés, pouvaient quand même travailler ensemble et gérer ensemble ce qui devait être deux années de transition et qui est devenu trois années de transition. Donc on a vu le président en place, les vice-présidents, les ministres se répartir un certain nombre de tâches et de fonctions et essayer de mettre en place un climat apaisé. Et donc, dans cette phase-là, où les passions politiques commençaient déjà à s'éveiller, parce qu'on savait que au terme, il y aurait des élections. Je ne critique pas la presse écrite, hein, mais quand on lisait la presse écrite, on voyait des titres dont certains pouvaient appeler à la guerre civile, hein, parce que on partait d'une phrase avec des rumeurs. Or, justement, il y avait le travail qui a été abattu ici, qui était important. Moi, la première fois que je suis arrivé à Radio Okapi, je suis entré par la porte qui est là, et j'avais l'impression que c'était la MONUC. Et les gens qui étaient là m'ont dit, non, c'est pas la MONUC, c'est Radio Okapi. Alors bon, donc j'ai commencé à écouter Radio Okapi, et il est apparu que ce n'était pas la voix de la MONUC, hein, c'était des journalistes professionnels qui faisaient bien leur boulot et qui, descendant sur le terrain, étaient capables de mettre le doigt sur un certain nombre d'enjeux qui intéressaient monsieur et madame tout le monde et pas seulement la classe politique.
Jean-Marie Guéhenno, pendant la transition, on se souvient du CIAT, hein, le comité international d'action, d'accompagnement, voilà, de la transition, ça me revient. On se souvient qu'il y avait beaucoup de tractations à l'époque, hein, et que la tâche n'était pas très facile. Comment vous avez perçu cela au niveau des Nations Unies?
Ah ben évidemment, cet attelage du 1 plus 4, c'était un attelage compliqué, parce que c'était l'attelage de leaders qui avaient été qui s'étaient combattus. Et donc il fallait qu'ils apprennent à travailler ensemble. Et le rôle de la communauté internationale, c'était d'encourager cela. Alors il y avait tous les jours une crise ou une autre, mais je pense que en même temps il y avait un sentiment patriotique congolais qui a permis de surmonter ces crises. Bon, ça n'a pas fait disparaître les méfiances, ça n'a pas fait disparaître les rivalités, ça c'est normal, mais je pense que ce qui était encourageant, c'est quand même, il fallait voir d'où on venait, d'une guerre qui avait été tragique, et donc cet apprentissage du travail en commun, c'était le début de la refondation du pays, et ça c'était très très important. Et pour Radio Okapi, j'entends ce que vient de dire Elika, je trouve que c'est très important. Il entrait à Radio Okapi, il n'avait pas l'impression d'entrer à la MONUC. Et d'une certaine manière, c'est une bonne chose, parce que justement, Radio Okapi, c'est au-delà de la mission de maintien de la paix. C'est des Congolais, c'est une radio qui a pour objet d'établir un terrain commun, de faciliter la recherche de la vérité entre les Congolais, et c'est ça qui peut permettre la réconciliation. Il ne peut pas y avoir d'unité du pays si on n'est pas d'accord sur les faits, si on ne peut pas se parler de façon honnête. Et je crois que Radio Okapi, de ce point de vue, a été très importante pendant toute cette période du 1+4 où il fallait apprendre à travailler ensemble et à vivre ensemble.
Jean-Claude.
Oui, je voulais peut-être poser une petite question à l'institut.
Oui, je le ferme.
Je me permets à Jean-Marc Guénon, peut-être au professeur Elika aussi, parce qu'il semble que pendant la transition, si on a eu 1+4, c'était aussi pour, illustrer cette méfiance qui existait entre les acteurs, comme quoi personne ne voulait d'un premier ministre, alors il fallait contenter les autres acteurs politiques. Je ne sais pas si Jean-Marc Guénon peut-être peut confirmer cela.
Je crois que... C'est le problème de tout processus de paix. Si vous laissez des acteurs importants en dehors de la tente, si je puis dire, en dehors de l'arrangement, il y a un grand risque qu'ils remettent en cause l'arrangement. Si vous avez une situation bipolaire, en quelque sorte, avec un président et un premier ministre, le risque de l'affrontement est important aussi. Si vous élargissez un peu les choses, vous donnez plus de jeu au système, et ça permet d'arriver à un terrain commun de façon moins difficile. Donc je crois que il y a eu cette idée là dans le 1+4.
Professeur Elika.
Oui, il y avait aussi le fait que l'expérience du président et du premier ministre a été catastrophique au Congo en 1960 entre Kasavubu et Lumumba et en 1965 entre Kasavubu et Tshombe. Donc il fallait opérer autrement. Et je crois que le 1+4, avec tout ce qu'on lui a reproché, a permis un premier regroupement des forces autour de ces cinq personnalités qui se ramenaient finalement à un petit nombre de courants. On a vu que lorsque le processus électoral a effectivement eu lieu, malgré le très grand nombre des partis politiques, au fond, quelques blocs importants apparaissaient qui correspondaient en gros au 1+4.
Je vais quand même placer un mot par rapport au travail de Radio Okapi, quand on dit que ce n'est pas une radio de la MONUC. Et là, je voudrais quand même qu'on salue le rôle que joue la Fondation Grandel. Je ne suis pas porte-parole de la Fondation Grandel, mais je sais de quoi je parle, parce que je sais qu'il y a des moments où, au niveau de la radio, on a senti par moments une sorte de pression venant de la MONUC, et on a senti que, parce que la Fondation tenait à cette indépendance des journalistes, que nous étions, donc on a senti que cela a permis en fait aux journalistes de Radio Okapi de rester au milieu, de ne pas faire un peu la caisse de résonance de la MONUC. Ça c'est important, parce que je sais qu'à la cité, très souvent, on a eu à être taxé de Radio Okapi et Radio de la MONUC, tout de suite.
Voilà. Merci Jean-Claude, Radio Okapi qui est le... Oui, Jean-Marie Guénon.
Quand j'ai rencontré les responsables de la Fondation Arondel, j'ai trouvé des personnes qui ont un grand sens justement de ce que peut apporter la radio dans le débat démocratique, et les Nations Unies travaillent avec la Fondation Hirondelle dans d'autres endroits du monde. Je pense en particulier au Soudan, où il y a une radio, Radio Miraya, qui est aussi soutenue par la Fondation Hirondelle, et dans le même esprit d'avoir une relation de bonne relation entre la mission des Nations Unies et la radio, mais en même temps d'avoir cet espace qui est important et au fond tout le monde y gagne, et la radio et la mission des Nations Unies.
Merci à Jean-Marie Guillemot. Prenons le troisième moment fort, 20 juin 2005, l'opération d'enrôlement des électeurs, le référendum en décembre 2005, le premier tour des élections, puis le deuxième tour. Je vous invite à écouter cet extrait de l'émission Dialogue entre Congolais du 16 novembre consacré à la publication des résultats du deuxième tour des élections présidentielles. L'émission a été présentée par Broy Munganga.
Premier rang, Kabila Kabange Joseph, 58,05%. Au second rang, Bemba Gombo Jean-Pierre, 41,95%. Et ayant recueilli la majorité absolue des suffrages estimés au second tour, est déclaré élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Kabila Kabange Joseph.
Maître Jean Bouillou, brièvement, une petite réaction.
Il faut d'abord féliciter Monsieur le peuple congolais d'avoir posé son choix après 40 années pratiquement passées sans cette possibilité de vouloir se désigner lui-même ses dirigeants. Félicite également le président Joseph Kabila parce que il a pu, après 5 années de passage difficile, convaincre le peuple pour que finalement il soit désigné pour diriger pour les 5 prochaines années le Congo.
Monsieur Yves Kipsoumbé, brièvement votre réaction par rapport à cette publication.
Deux sentiments. Le premier, c'est celui d'un profond regret que ce jour où la commission électorale indépendante proclame les résultats provisoires de l'élection présidentielle, ça ne soit pas un moment de satisfaction collective. C'est dommage qu'à travers le pays, il n'y ait pas une liesse populaire.
Professeur Evika Mbokolo, pendant la publication de ces résultats, vous étiez ici à Kinshasa et vous avez travaillé comme expert pour le compte de Radio Okapi. Comment vous avez vécu ce moment-là?
Oui, je dois dire d'abord que cette expérience d'expertise a été très importante pour moi et pour mes deux collègues, un Ivoirien et un autre Congolais, parce qu'on a vu l'effort de Radio Okapi de chercher d'autres compétences que les compétences purement journalistiques.
Sans vous couper, professeur, le professeur Tessie Bakary qui nous a expliqué l'année passée.
Oui, et à son âme. Et donc, du coup, comment dire, nous, experts, on venait là pour apporter un éclairage qui était totalement extérieur au débat des acteurs dont on a vu que Maître Yumbu et Sommé n'étaient pas tout à fait d'accord sur la qualification de ce contexte. Et j'avoue que ce qui nous a frappé d'abord, c'est la mobilisation des électeurs congolais. Et là, vraiment, on a découvert un peuple citoyen pendant ces deux tours, et ça a été extraordinaire de voir et de rapporter aux gens les longues queues d'attente pour passer aux urnes et accomplir un devoir qui était aussi la manifestation d'un droit. Ça, je pense que ça a été énorme. Hommes, femmes, vieux, jeunes, des gens sains de corps, d'autres malades, quelquefois handicapés. Ça, c'était important. Et l'autre chose qui était importante, c'est que finalement, malgré ce qu'ils sont dit, c'est que finalement, les gens poussaient un ouf de soulagement. On était arrivé au bout, on allait enfin se consacrer, disons, aux vraies choses, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, l'éducation, etc. Et ça a été, je pense, une expérience vraiment unique sur laquelle, si j'ai le temps dans mon âge futur, je pense qu'il faudrait que j'écrive un livre parce que j'ai pris énormément de notes, parce que ça a été un moment extraordinaire dans l'histoire du Congo et d'une manière générale dans l'histoire de l'Afrique parce que nous avons réussi ça.
Jean-Marie Guillemot, comme le dit le professeur Elika, avez-vous au niveau des Nations Unies le sentiment d'un devoir accompli?
Avec l'élection au Congo, c'était un des plus grands défis des Nations Unies, des Congolais, enfin de toutes ces dernières années, parce que organiser une élection de cette importance sans qu'il y ait d'un microche majeur, c'était infiniment difficile. Il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas que ça pourrait se faire. Et donc, effectivement, quand on a vu que l'élection s'était passée dans les conditions que tout le monde a trouvées satisfaisantes, et quand on a vu que ça s'était passé essentiellement dans le calme, oui, le sentiment d'un devoir accompli. Mais en même temps, une élection, ça n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. quand on sort d'un conflit, une élection, c'est forcément un moment difficile, parce qu'il faut que le vaincu accepte sa défaite, il faut que le vainqueur maîtrise sa victoire, et puis il faut savoir qu'ensuite, il faudra mobiliser toutes les forces du pays, et donc, oui, un devoir accompli, mais seulement une étape, parce que, d'une certaine manière, après l'élection, les choses difficiles commençaient. Il y avait les fondations pour des institutions légitimes, mais ces institutions, elles étaient encore à construire.
Jean-Claude Ntumbakamanga, on se souvient que Radio Okapi a déployé ses journalistes hein, sur toute l'étendue de la République pour couvrir cet événement. Vous étiez déjà à Radio Okapi. Rappelez-nous un peu ces moments forts.
Oui, j'étais à Radio Okapi et je me rappelle que c'est l'un des grands moments, effectivement, du travail des journalistes que nous étions à Radio Okapi, des moments qui nous ont demandé beaucoup de rigueur. Je me souviens, c'était à l'époque de Yves Renard, il était rédacteur en chef, il était derrière tout le monde, il gueulait sur tout le monde parce que c'était un moment où il suffisait d'une moindre erreur, d'une mauvaise manipulation des résultats qui étaient collectés sur le terrain et ça pouvait soit déclencher, je sais pas, des manifestations à la cité. Et donc je pense que oui, c'est quand même un grand travail que nous avions abattu, et surtout que les résultats qui avaient été récoltés quand même par les journalistes de Radio Okapi n'étaient pas très loin des résultats que la CEI avait publiés. Ça, c'est quand même un travail qu'il faudrait saluer là aussi. Hein.
Alors, je vous
permettez,
je vous en prie, professeur.
Un mot sur le courage des journalistes, parce qu'on ne le dit pas assez. Être sur le terrain dans ces circonstances, c'est mettre sa vie en jeu dans beaucoup de moments. Je me souviens en particulier du jour où Jean-Pierre Bemba est entré à Kinshasa. Il y avait une de nos journalistes, dont j'ai oublié le nom, qui était au stade au moment où les gens allaient sortir du stade et où il y a eu toutes ces violences. Eh bien, elle a continué son travail au milieu de ces périls insurmontables. Et je me souviens aussi de ceux qui étaient à moto dans des endroits inatteignables et qui faisaient quand même ce boulot quelquefois, mais vraiment en mettant quotidiennement en danger leur vie. Ça, je crois qu'il faut vraiment le saluer.
Merci, professeur. Je vous invite une fois de plus à écouter ce témoignage de William Lassiswing, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC sur le processus électoral.
Le souvenir que je vais garder toute ma vie, c'est la détermination du peuple congolais. Ce que j'ai vécu autour du pays, c'était de voir un peuple dévoué, croyant, déterminé, qui ont été très patients pour aller aux urnes 4 fois. Premièrement, pour se faire enregistrer. Deuxièmement, pour voter pour la Constitution, que la plupart n'ont jamais lu ou vu. Troisièmement, pour aller au premier tour et 4e fois pour aller au 2e tour. Parfois, c'était une femme avec un enfant sur le dos qui fait peut-être 30 ou 40 kilomètres pour arriver au bureau de vote. Nous étions, je peux vous dire, moi certainement, j'étais inspiré par ce dévouement, cette détermination. Et ça reste toujours gravé dans les mémoires que j'ai du Congo.
Jean-Marie Guémot, un commentaire sur ces propos de William Lassiswing.
Je crois qu'il traduit très bien notre émotion, hein, parce que ce qui a été magnifique dans tout cet effort, c'est effectivement l'engagement de tous les Congolais, l'engagement pour voter dans des conditions souvent difficiles, l'engagement pour éviter les violences, parce que bon, il y a eu des incidents, mais enfin dans l'immensité du pays, c'était relativement peu. Je crois que pour nous tous qui avons travaillé aux Nations Unies, c'est une leçon de démocratie, hein. Et là, je crois que le peuple, le Congolais, peut être fier d'avoir donné une leçon, je dirais, à toute l'Afrique et à tous les pays qui sortent de conflit.
Jean-Claude.
Oui, je voulais juste dire qu'il y a un élément aussi qu'il faut souligner au niveau du travail battu par Radio Okapi, c'était notamment des émissions qui ont été organisées, pas seulement Dialogue entre Congolais, il y a eu aussi le débat électoral, hein, des émissions en langue pour préparer les Congolais à comprendre l'importance des élections, à comprendre certains textes. Malheureusement, je sais que les responsables de Radio Okapi me suivent, le débat a été supprimé. Je pense que ça, c'est des émissions qui devraient normalement être relancées pour permettre à la population de comprendre, parce que il faut pas oublier que le processus électoral ne s'est pas achevé, parce qu'il y a les élections locales qui jusque-là n'ont pas été organisées. Donc je pense que la radio a encore un rôle à jouer à ce niveau-là, et je pense que des émissions en langue de ce genre-là devraient encore revenir pour continuer à aider encore les Congolais à comprendre pourquoi ils votent et c'est quoi en fait, qu'est-ce que ça peut leur apporter dans leur vie.
Alors il y a d'autres invités qui prennent part à cette émission, ce sont les auditeurs et ils nous ont écrit. C'est le cas de Cathy Kiro de Boende à l'Équateur qui dit: je pense que l'émission Dialogue entre Congolais doit chercher à augmenter sa durée de 45 minutes à 1 heure. Malonga Koubali de Bandundouville: Radio Okapi nous informe des réalités internes et semi-externes du pays. Norbert de Kalimi au Katanga: que l'éternel Dieu bénisse la Radio Okapi d'avoir contribué à notre jeune démocratie par son impartialité et surtout de nous avoir informés de tout sauf rien. Nous souhaitons que cette radio fasse encore plus d'efforts dans ses productions car son information a toujours été crédible et fouillée. Uchai Babi de Bounia en province orientale: l'impact de Radio Okapi est largement positif pendant la transition. Elle a beaucoup favorisé le climat de dialogue entre les politiques congolais qui se voyaient en ennemis. Je loue également la flexibilité de Radio Okapi constatée dans la proclamation des résultats des élections en RDC. Professeur Evika a un commentaire sur ces réactions.
Oui, ce sont des couronnes de fleurs qui sont tissées sur la tête de Radio Okapi. Moi, je suis sensible à la demande de l'un des auditeurs qui trouve que les 45 minutes du dialogue ne sont pas suffisantes. C'est vrai que sur un certain nombre de moments, on se rend compte que une heure serait pas mal. Mais enfin, on doit dire quand même à cet auditeur que l'émission est une émission qui passe plusieurs fois dans la semaine. Donc, il y a des thèmes qui reviennent et on ne peut pas parler que de ça. Parce que comme Jean-Claude l'a dit, il y a d'autres émissions, d'autres informations, d'autres débats qui passent sur la chaîne et qui prolongent ou qui annoncent le débat intercongolais.
Jean-Marie Guillemot, il y a Robert Bahomé de Bukavu Sud-Kivu qui dit: le rôle joué par l'émission Dialogue entre Congolais face à la population n'est plus à démontrer. Elle a fait suffisamment ses preuves, mais en tant qu'une œuvre humaine, il faudra qu'elle soit davantage améliorée, étant donné les enjeux sociopolitiques et d'autres qui se profilent déjà à l'horizon.
Non, je suis d'accord avec cela. Moi, je crois, on a parlé des élections. Une élection, c'est un moment essentiel dans la vie démocratique, mais il faut que les citoyens soient en permanence informés des questions qui se posent et qu'ils puissent en discuter. Et on voit aujourd'hui qu'il y a toutes sortes de débats très importants où la radio peut jouer un rôle essentiel d'information. Je pense à la gestion des ressources naturelles, à la question de la décentralisation, la question des élections locales vient d'être évoquée. On sait qu'il y a un certain nombre de tensions qui existent, quelquefois les tensions entre Kinshasa et les provinces, quelquefois les tensions à l'intérieur d'une province. Tout ça, il faut pouvoir en débattre dans la transparence, et je pense que la radio, c'est une sorte de parlement virtuel, c'est un espace citoyen qui doit pouvoir aider à mettre les problèmes sur la table. Et je pense qu'aujourd'hui, au Congo, il y a un grand besoin de cela. Et effectivement, si on pouvait passer de 45 minutes à une heure, il y a bien des questions qui justifieraient une heure de discussion.
Jean-Claude Yakabayou de Manono Katanga qui dit: bravo à l'émission Dialogue entre Congolais pour l'information et la formation du peuple congolais en l'accompagnant dans la vie politique du pays. Son caractère impartial donne l'occasion à tout Congolais de donner son opinion politique, quel que soit son rang social. Mamboura de Boutembo, Nord Kivu: je pense que Radio Okapi est celle qui a uni l'Est à l'Ouest de la RDC, mais nous regrettons notre sort au départ des Nations Unies étant donné que cette radio est onusienne. Que faut-il finalement améliorer à Radio Okapi?
Ah oui, Radio Okapi, il faut, on doit quand même se dire des choses en face, il faut quand même rassurer l'avenir de Radio Okapi. Je sais que c'est une question qui m'a déjà été posée par le président de la République, Joseph Kabila. Que deviendra la Radio Okapi après le départ de la monarchie? Donc je pense quand même que c'est une question qui doit être posée. La radio a déjà été, la population s'est déjà appropriée cette radio, mais il ne faut pas se leurrer. Il faut se poser des questions sur l'avenir de cette radio, qui doit demeurer et comment est-ce qu'elle doit demeurer. Moi, je pense que ça, c'est des questions de fond qui doivent être
débattu et pour lequel il faut absolument arriver à trouver des solutions, parce que sinon, ça, franchement, perdre Radio Okapi, ça serait un gâchis pour les Congolais. Ça serait un grand gâchis, parce que moi, je me souviens encore, un de nos rédacteurs a dit que Radio Okapi est un luxe pour ce pays. C'est un vrai luxe, parce que avec tous les moyens que cette radio régorge, le travail qui est là-bas, la diversité de vues, des acteurs qui ont peu de chance de s'exprimer sur d'autres médias, mais ils le font sur Radio Okapi, et tous ces auditeurs, toute cette audience qu'a Radio Okapi, je pense qu'il faut absolument, je pense que Jean-Marie Guénon qui est là, il est peut-être mieux placé pour essayer, pourquoi pas, même s'il n'est plus aux Nations Unies, mais d'essayer plus que de plaider pour que cette radio soit... Il faut protéger cette radio.
Professeur Eli Kambokolo, nous allons coupler deux moments forts parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Prenons la mise en place des institutions issues des élections et ce 8e anniversaire de Radio Okapi qui correspond au 50e de la RTC.
Oui, alors le 50e, c'est une occasion pour, d'une part, rappeler le chemin qui a été parcouru par le Congo depuis 50 ans, mais c'est aussi le moment où on regarde fermement vers l'avenir. Et je crois que cet avenir comporte encore énormément d'incertitudes, et je partage tout à fait l'inquiétude de Jean-Claude, parce que, ayant travaillé à cette radio, j'ai été associé à un certain nombre de discussions. Si Radio Okapi, c'est un luxe nécessaire que nous devons continuer de payer. Et je pense que nous, quand je dis nous, c'est nous Congolais, nous auditeurs, nous ne pouvons pas être là, nous contenter d'écouter cette radio sans savoir que pour qu'une radio fonctionne, il y a des journalistes, il y a de l'électricité, il y a du matériel, donc il faut de l'argent, il faut des moyens, et ces moyens, il faut les trouver. Parce que sans une radio comme celle-ci, on risque d'aller dans une impasse, parce que nous connaissons bien le paysage audiovisuel de notre pays, et nous savons qu'il existe un certain nombre de choses qu'on appelle radio, et qui sont en fait des officines de propagande qui ne demandent qu'à jeter de l'huile sur le feu. Donc il faut faire attention à cela.
Bon, merci professeur, je vous demande déjà votre conclusion, hein, parce que l'émission va toucher à sa fin.
Ben, ma conclusion, c'est que ce 8e anniversaire ne soit pas le dernier, et que nous allions jusqu'au 10e anniversaire, après quoi nous penserons au 20e, au 30e et bien sûr au 50e, puisque nous sommes là pour le 50e du Congo.
Jean-Marie Guéno, en guise de conclusion, quelles pourraient être les perspectives pour Radio Okapi?
D'abord, je dirais, Radio Okapi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Radio Okapi, c'est une des fondations du fonctionnement démocratique, et aujourd'hui, on va fêter bientôt, dans quelques mois, les 50 ans de la création de l'indépendance du Congo. Je pense que ces 50 ans, maintenant, il faut bâtir des institutions, il faut les consolider, et des institutions solides, elles n'existent pas sans un vrai débat démocratique. Et Radio Okapi, c'est un des canaux, une des plateformes de ce débat démocratique, et je peux vous dire que dans la mesure des moyens, moi je ferai toujours tout ce que je peux pour que Radio Okapi puisse continuer de vivre, y compris quand la MONUC sera partie, parce que je crois qu'il est très important d'avoir un instrument comme Radio Okapi pour permettre aux Congolais de dialoguer avec eux.
Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Oui, je reviens encore sur ce luxe qu'est Radio Okapi. J'ai dit que ça reste un luxe, mais c'est vrai, un luxe nécessaire. Quand je dis un luxe, c'est par rapport à ce qui existe comme média. Sinon, mon souhait, c'est que dans les programmes à venir de Radio Okapi, qu'on puisse de plus en plus les cadrer par rapport aux besoins de ce pays, aux besoins de la population pour l'avenir.
Ouais. Merci Jean-Claude. Je vais donner la parole à Guy Maté, dont vous entendez souvent parler, réalisateur de cette émission, et Samuel Kachak. Guy, un mot par rapport aux 8 ans de Radio Okapi.
Oui, d'abord, je souhaite bon anniversaire à Radio Okapi. Et je crois que nous, qui sommes journalistes, ainsi que les éditeurs, venons de réaliser, de cerner en fait les rôles que moi je peux qualifier d'héroïques que cette radio a joué, parce qu'elle a eu à braver tous les dangers. Voilà.
Samuel Kachak.
tout à fait. Radio Capi, c'est un instrument important de communication et nous souhaitons que cette radio puisse aller de l'avant et bon anniversaire pour le week-end de Radio Capi.
Voilà, ce sont les héros dans l'ombre hein, de l'émission Dialogue entre Congolais que nous avons fait parler. Alain Hirung était à la présentation. Merci à vous tous, professeur Elika, Jean-Claude, Jean-Marie Guénaud. Merci à Mimi Kindou qui était à la mise en monde sous la supervision technique de Bob Landou et à la supervision rédactionnelle de Martin Sebujangwe. Encore une fois, bon anniversaire à tous. Oh, Kathy, oh, Kathy.